Le journal Antoine Geoffin.
Bonsoir à tous. La France est-elle encore la bienvenue au Sahel ? Oui, répondent ce soir les pays du G5 Sahel réunis à Pau par le président Macron. Il va renforcer la force Barkhane. Louise Baudet est en direct de Pau. La trêve déclarée dimanche en Libye va-t-elle durer ? Les deux ennemis, Al-Sarraj et Haftar, aujourd'hui à Moscou, l'un signe un cessez-le-feu officiel, l'autre se donne le temps de réfléchir. Claude Brouillot nous appelle de Moscou. L'invité de ce journal est Thierry Coville, chercheur spécialiste de l'Iran. Il nous éclairera sur les manifestations à Téhéran contre le pouvoir accusé d'avoir menti sur l'origine du crash du Boeing le 8 janvier. 41e jour de grève en France, les enseignants reçus aujourd'hui par le ministre de l'Éducation. Des augmentations de salaire dans la besace pour compenser leurs pertes à venir avec la réforme éclairage signée Hakim Kasmi. Enfin, le procès de deux filières djihadistes, la cour d'assises spéciale de Paris s'est intéressée aujourd'hui à une famille entière partie en Syrie, compte rendu d'audience signé Florence Turm. Réuni à Pau, aujourd'hui le G5 Sahel réaffirme son soutien à l'armée française et à la force Barkhane qui lutte contre le djihadisme dans la région. Le président Emmanuel Macron, qui organisait le sommet, attendait une clarification après les critiques contre la présence française dans la région. Emmanuel Macron au centre du jeu. Aujourd'hui, Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Pau où le chef de l'État annonce ce soir le renforcement de la force Barkhane.
Oui, un président français résolument au centre, entouré des autres chefs d'État. C'est essentiellement lui qui s'exprime. Emmanuel Macron qui annonce donc l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel pour renforcer la force Barkhane. Des unités combattantes prédisposées dans la région qui arriveront sur zone dès la semaine prochaine, précise l'état-major des armées. Alors pas question de se désengager donc, au contraire, hein, malgré le sentiment anti-français qui monte, notamment au Mali et au Burkina. Emmanuel Macron s'en est de nouveau pris d'ailleurs au contre-vérité diffusée selon lui par des puissances étrangères, comprenez la Russie et la Chine qui poussent leurs pions dans la région.
J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français.
La France, qui a perdu 41 soldats au Sahel depuis sa première intervention en 2013, elle avait insisté pour obtenir une clarification des pays de la région. Elle l'a obtenue, puisque dans la déclaration finale écrite rendue publique à l'issue du sommet, les présidents du G5 Sahel expriment, je cite, le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Et même si, au micro, le plaidoyer pro-domo d'Emmanuel Macron a eu bien peu d'écho.
Il y a quelque chose que vous voulez rajouter, président Déby ?
Vous avez dit l'essentiel. Hein. Non, c'est bon.
Président, tu veux rajouter quelque chose ?
Voilà, la France et ses partenaires africains resserrent les rangs, c'est vrai, mais sans effusion particulière. Seul autre chef d'État à s'exprimer, le Burkinabé Roch Kabore, en tant que président en exercice du G5 Sahel. Il a lui mis l'accent sur l'autre point essentiel du sommet, la mise en place d'un commandement conjoint de la force Barkhane et du G5 Sahel dans la fameuse zone des trois frontières, à la croisée du Mali, du Burkina et du Niger. Zone prioritaire, c'est là que se sont concentrées les attaques les plus meurtrières ces derniers mois. Et puis, rendez-vous enfin pour un nouveau sommet afin de faire le point. Ce sera au mois de juin à Nouakchott en Mauritanie.
Louise Baudet en direct de Pau, merci. Va-t-on vers une trêve durable en Libye ? Les habitants de Tripoli, traumatisés par des années de guerre, l'espèrent et l'espoir d'un cessez-le-feu passe par Moscou. Les deux camps y étaient réunis aujourd'hui. D'un côté, le chef du gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU, Fayez Al-Sarraj. De l'autre, le maréchal Haftar, puissant dans l'est du pays. Claude Brouillot, vous êtes notre correspondant à Moscou. Cette trêve, Claude, est-elle officiellement signée ?
Alors pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que si Fayez al-Sarraj a signé l'accord de cessez-le-feu, donc dès ce soir, le maréchal Haftar lui a demandé un temps de réflexion jusqu'à demain. Les deux protagonistes sont donc à Moscou pour discuter des modalités de ce cessez-le-feu, ce qui en quoi n'est déjà pas rien, alors qu'ils sont en guerre tout de même depuis des années. Mais l'objectif était aussi de préparer, à l'occasion de rencontres séparées, avec alors d'un côté des responsables russes, de l'autre des émissaires turcs, des pourparlers de paix, dans la perspective perspectives du sommet de Berlin dimanche. Un premier cadrage salué d'ailleurs par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, pour qui il y a eu progrès aujourd'hui à Moscou. Un cadrage destiné en quelque sorte à faciliter la désescalade sur le terrain en espérant que les efforts diplomatiques russes, soulignés par les Occidentaux, ne seront pas démentis par les armes d'ici la fin de semaine.
Et Claude, comment imaginer un tel accord de paix, sachant que la Russie soutient le maréchal Haftar et la Turquie Fayez al-Sarraj?
Alors ça, c'est toute la force de persuasion de Vladimir Poutine qui apparaît une fois de plus comme l'influenceur numéro un, en quelque sorte, sur le dossier syrien également. Il y a 5 jours, le président russe a d'abord commencé par se rendre à Istanbul pour convaincre Erdogan, son homologue turc, de copiloter un cessez-le-feu en Libye. Ensuite, Vladimir Poutine a affirmé ce week-end, devant Angela Merkel, qu'il recevait à Moscou, avec beaucoup d'aplomb, que la Russie ne soutient aucun camp, que les Russes qui se trouvent aux côtés du maréchal Haftar, en l'occurrence des centaines de paramilitaires du groupe Wagner, n'avaient aucun mandat et qu'ils ne recevaient aucun subside de l'État. Enfin, le maître du Kremlin s'est ensuite laissé de l'espace aux autres parties, notamment à la Turquie, pour parvenir à ses fins. En clair, être considéré comme le parrain du processus, quitte à laisser les Occidentaux mettre la touche finale.
Claude Brouillot, correspondant de Radio France à Moscou, merci. En Iran, la rue fait entendre sa colère contre les autorités coupables, selon les manifestants, d'avoir menti sur l'origine du crash de l'avion qui reliait Téhéran à Kiev le 8 janvier. 176 morts. Samedi, l'Iran a fait son mea culpa. Les autorités ont pris l'avion pour un missile et l'ont abattu. Sauf que dans un premier temps, la République islamique réfutait toute accusation. Bonsoir Thierry Coville.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et l'invité de ce journal. Mort aux menteurs, crient certains manifestants iraniens. Ils estiment que les autorités ont essayé d'étouffer l'affaire. Honnêtement, ça n'est pas le cas, dit le gouvernement. Est-ce qu'on peut y croire ?
Ah non, les faits sont là. Pendant, comme vous l'avez très bien dit, pendant 3 jours, je crois que c'est le directeur de l'aviation civile a dit qu'il y avait un problème technique. Je crois que le porte-parole du gouvernement a raconté la même histoire. Donc pendant 3 jours, il y a eu les dirigeants iraniens ont menti à tel point que la presse iranienne s'est excusée auprès de sa population. Même les journaux, je crois que l'agence de presse officielle a dit qu'on a menti. Donc c'est un fait avéré que les dirigeants iraniens ont menti pendant 3 jours. C'est déjà bien qu'ils aient avoué au bout de 3 jours et qu'ils aient, je crois, accepté une mission internationale pour que les Iraniens, notamment, et tout le monde sache exactement ce qui s'est passé. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont dit la vérité tout de suite.
Il y a moins de 10 jours, tout le pays semblait à l'unisson, pleurait le général Soleimani, tué par une frappe de drone américain. Hier, on a vu certains manifestants arracher son portrait en Iran et dans certains cortèges, on crie « mort au dictateur, mort au tyran », référence ici au guide suprême, Ali Khamenei. Comment expliquer cet apparent volte-face si rapide ?
Il faut prendre l'Iran comme un pays moderne, divers, avec diverses opinions. Donc vous avez un pays d'assurance, de toute façon vous avez un cadre très très nationaliste, donc c'est vrai qu'il y avait des millions de personnes dans la rue quand il y a eu l'enterrement de Soleimani, et je pense que parmi ces personnages, parce qu'on sait, il y a même des gens qui avaient manifesté contre les autorités en novembre, vous savez, quand il y a eu la hausse de prix de l'essence. Par contre, c'est vrai qu'avec cette, on vient de dire, ce mensonge, il y a quand même eu, je ne sais pas combien, de dizaines d'Iraniens tués, et en plus les pasdarans qui ne rendent de compte qu'au guide. Donc il y a aussi, si vous voulez, dans ce cas-là, il y a la colère, je crois qu'il y a plusieurs étudiants qui ont été tués, et toutes, si vous voulez, toutes les, comment dire, les antagonismes, la répression qu'ont quand même mené les pasdarans depuis des années en Iran, le fait que des partis du gouvernement iranien qui ne rendent de compte qu'à personne, tout ça, vous voyez, dans ces moments-là, tout ça remonte à la surface. Donc, je pense que c'est pas du tout contradictoire, le nationalisme iranien, mais aussi avec une population jeune, des étudiants, qui demandent des comptes.
Parce que ça choque en Iran, ce mensonge des autorités.
Écoutez, imaginez ce qui se passerait en France. Là, c'est quand même, ils étaient, on attendait, je sais pas, vous imaginez par quel état est passé le pays. Donc, il y a eu le choc quand même, qui a été l'assassinat du général Soleimani, ces manifestations monstres. Il y a eu déjà 50 Iraniens, 50 sont morts dans les cérémonies pour l'enterrement. Et là, ils attaquent les bases américaines et ensuite, les Américains ne répondent pas. Il y a quand même des dizaines d'Iraniens qui sont tués. Donc là, je pense qu'il y a, la population est à vif, je pense que les nerfs sont à vif. Et je vous dis, il y a tout ce qui ressort et notamment l'antagonisme. Les très fortes critiques pour, on pourrait dire, employer des mots plus forts, notamment des étudiants par rapport aux pasdarans qui, je répète, dans le système institutionnel iranien, des problèmes qui se posent, c'est qu'ils ne rendent de compte qu'au guide. Donc très clairement, c'est une réaction rationnelle des étudiants qui demandent, qui disent, qui sont les coupables et que en fait, les coupables, et c'est normal qu'ils critiquent le guide. C'est lui, normalement, les pasdarans ne rendent de compte qu'à lui. Donc ça surprend et moi, ça, je trouve pas c'est contradictoire avec les manifestations récentes pour la mort de Soleimani.
Dernière question pour terminer. Certains manifestants iraniens crient, ils mentent, notre ennemi n'est pas l'Amérique, il est ici. Quelles peuvent être les répercussions politiques de cette séquence crash, dénégation, puis reconnaissance de l'erreur autour du Boeing? Quelles peuvent être les répercussions pour le régime de Téhéran?
Écoutez, là, c'est une question difficile. Hein. Moi, j'ai pas la réponse. Je peux déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a un choc. Hein. Il y a un choc et manifestement, les branches les plus radicales du pouvoir, dont on a parlé du guide, du Pasdaran, sont directement mises en cause. Alors, à partir de là, il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce que les modérés, on a vu Rouhani avec quand même un ton assez dur par rapport à, il a demandé que les responsables soient jugés. Est-ce que les modérés vont profiter de l'occasion pour un petit peu reprendre un petit peu plus de pouvoir, parce qu'il était plutôt affaibli? Mais est-ce que le gouvernement dans son ensemble iranien va arriver à rétablir une certaine confiance vis-à-vis de la population? Tout ça, vous le rappelez, dans un cadre de tension monstre, avec les sanctions économiques, l'Iran est quand même à couteau tiré avec les États-Unis. Donc, je vous dis, le pays est à vif. Et très clairement, je pense que là, il y a un choc énorme, cet accident, cette erreur des Pasdaran. Et les jeunes et la population iranienne demandent des comptes. D'un autre côté, je voulais ajouter, on a une population jeune et moderne en Iran. Et par exemple, un élément qui est très important pour les Iraniens, c'est la compétence. Et là, très clairement, vous voyez, il y a tous ces éléments qui s'entremêlent. Les gens disent comment c'est possible, c'est une erreur. Et quand on commet une erreur, eh ben, tu vois, on doit rendre des comptes. Et je pense qu'il y a une réaction assez saine, finalement, de la société iranienne.
Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, merci d'avoir été l'invité de ce journal. En France, 41e jour de grève demain et pour en sortir, le gouvernement tente d'apaiser les tensions. Les syndicats d'enseignants reçus aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, leur promet une rallonge de 500 millions d'euros pour des augmentations dès 2021. Hakim Kasmi, cette revalorisation salariale a pour objectif d'amortir les effets négatifs de la réforme des retraites.
Oui, Jean-Michel Blanquer a beau garantir aux enseignants qu'ils garderont le même niveau de pension qu'actuellement grâce à une hausse des salaires sous la forme de primes, notamment pour ceux qui sont en début de carrière, avec une enveloppe globale de 10 milliards d'euros répartie jusqu'en 2037, les syndicats ne sont pas du tout rassurés, d'autant que le ministre de l'Éducation risque de leur demander en contrepartie, eh bien, de travailler plus. Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES-FSU, entend bien le faire sortir du bois sur ce sujet très sensible chez les enseignants.
C'est que d'obliger les profs à remplacer ceux qui sont absents parce que l'institution est incapable de recruter suffisamment pour avoir des remplaçants et qu'on sait que c'est dramatique dans certains endroits, hein, notamment par exemple en Seine-Saint-Denis. Mais on sait aussi que les profs ne peuvent pas remplacer au pied levé comme ça pendant une semaine un collègue absent. D'abord, il y aurait d'énormes problèmes d'emploi du temps, de salle. Et puis parce que, encore une fois, quand nous avons des classes, ça veut dire derrière tout un travail et qu'il ne s'agit pas d'ajouter du travail à ce qui est déjà très lourd.
Autre piste, les formations qui pourraient ne plus se passer pendant les heures de cours, mais uniquement pendant les vacances scolaires. Les vacances qui, elles aussi, pourraient être réduites. Sur ce point explosif, Jean-Michel Blanquer n'a pas encore osé officiellement ouvrir la boîte de Pandore, indiquant seulement qu'il n'y avait pas de tabou et parlant juste, je cite, de professeur du XXIe siècle.
Hakim Kasmi, merci. Justice avec la deuxième semaine de procès de deux filières djihadistes particulièrement actives en 2014-2015 et aujourd'hui. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est intéressée au départ d'une famille entière de franciliens. Florence Turm était à l'audience.
La photo d'un petit garçon aux yeux noirs, t-shirt bleu et boucles brunes s'affiche sur l'écran de la salle d'audience. Photo expédiée par son père depuis la Syrie. Il est le seul à être rentré vivant du voyage, retrouvé par hasard dans un orphelinat de Bagdad après avoir fui le bombardement de Mossoul où sa mère, son frère et sa petite sœur ont sans doute péri. Un départ que les grands-parents, retraités désormais en charge de ce jeune garçon de 13 ans, n'ont pas vu venir. À l'école, il apprend bien, confie le grand-père, visage lourd, voix à peine audible et économie de mots. Il a été traumatisé, ajoute sa femme, mais on discute avec lui et il n'a pas fait partie de ses enfants soldats. Aujourd'hui, elle parle encore de sa gentille petite belle-fille qu'elle adorait, mais j'ai du mal à accepter qu'ils aient emmené les enfants. Je ne leur pardonnerai jamais ça, renchérit son mari, c'est ce qui a tué mon autre fils. cancer de l'estomac, toute la famille est persuadée que cette tragique histoire a provoqué la maladie. Je n'oublierai jamais ces enfants, pleure encore leur grande-tante à la barre des témoins. Seul, un homme se raidit aux questions de l'avocat général. C'est lui qui a accompagné la famille à l'aéroport le 3 janvier 2015. Il y a des gens inconsolables parce que personne n'a prévenu, insiste le magistrat. La petite fille avait 3 ans. Le témoin se ferme. C'est pas à moi d'empêcher ou de dénoncer. Il est parti avec ses convictions. Je ne suis pas responsable de ses actes. Les grands-parents, eux, ont déjà quitté la salle d'audience.
Florence Turm, la météo, la France coupée en deux demain. Le soleil dominera au sud d'une ligne allant du Pays Basque à l'Alsace. De la pluie pour le reste du pays. Attention, si vous habitez le Finistère, le Morbihan ou la Loire-Atlantique, vigilance orange, vague submersion jusqu'à la nuit prochaine. Température 10 degrés le matin à Lille et Paris, 12 l'après-midi dans la capitale, 14 à Marseille et à Nice.